Et donc là, on s'approche de là où vous habitez, n'est-ce pas?
Voilà, ça c'est une maison forestière.
Donc vous habitez dans la forêt quasiment?
On habite dans la forêt, oui. Donc ces maisons ont été conçues. Celle-ci est très ancienne, en fait, elle date même, je crois savoir, d'avant la révolution belge. À peu près contemporaine en tout cas.
Donc là, on quitte votre domicile et on va se diriger où exactement?
Donc on va aller sur mon triage. En fait, donc, moi j'occupe une maison qui est située dans la première brigade et je travaille, mon triage se trouve dans la deuxième brigade. Moi j'ai commencé en 85. Donc ça va bientôt faire 30 ans. J'ai commencé comme ouvrier forestier. Et puis j'ai gravi les échelons. J'ai passé les examens de garde forestier en 96. Et puis voilà. Maintenant je me... Plus récemment je suis devenu chef de brigade. Et donc... voilà. Au bout de 30 ans, il y a moyen de faire beaucoup de chemin, d'apprendre beaucoup de choses et d'avoir une très grande expérience.
Vous vous repérez facilement? Ça vous arrive encore de vous perdre dans la forêt de Soignes?
Non. Parce qu'en plus, moi, j'ai travaillé à la fois en première brigade, en deuxième et dans les bois périphériques. Donc, je connais. J'ai connu presque tous les triages, en fait. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier?
Oh, moi, je crois que sincèrement, c'est d'avoir été scout. Oui. Quand j'étais louveteau, éclaireur, eh bien, on se donnait rendez-vous chaque dimanche en forêt. C'était plutôt du côté de Tervuren et tout ça. Donc, moi, c'est vraiment là que j'ai pris goût. Et voilà, donc on est au mois de janvier. Pour l'instant, on prépare les martelages. Donc les martelages, c'est la désignation des arbres qui seront mis en vente au mois d'octobre. Donc pour ça, il faudrait peut-être expliquer que bon, la forêt, ben, c'est un milieu vivant, comme on l'a dit, mais pour la sylviculture, le principe, c'est de privilégier les arbres, les beaux arbres. Et donc, pour ça, on doit faire une sélection. Et un peu comme le jardinier éclaircit ses carottes dans son potager. Parce que si on laisse tous les arbres pousser l'un à côté de l'autre, naturellement, sans s'en occuper, eh bien, on arrive à avoir des arbres malingres qui vont être encore plus sensibles au vent. C'est-à-dire qu'on fait une sélection des arbres d'avenir, des arbres objectifs. Ce sont les arbres qu'on destine à rester jusqu'au terme d'exploitation, c'est-à-dire jusqu'à la fin de vie du peuplement. Donc c'est des arbres qui vont vivre jusqu'à 100 ou 200 ans, voire plus. Quand on a fait cette désignation-là, quand on a fait cette sélection-là, alors on passe en martelage au mois de février, ici dans le petit bois, et on va délivrer des arbres qui seront autour des arbres objectifs, hein, qui portent concurrence à ces arbres objectifs. Bon, et les arbres qu'on aura désignés au marteau donc sont délivrés et sont mis en vente. C'est une vente pas aux enchères mais au rabais, donc le prix, un prix maximal est fixé et puis on descend au fur et à mesure et c'est le premier qui prend le lot qui se porte acquéreur moyennant des cautions, etc., des cautions bancaires. Et alors on établit un état des lieux avec le marchand et à l'entrée, et à ce moment-là on lui délivre le permis d'exploiter et il a environ un an pour exploiter le bois qui lui a été cédé. Et donc voilà, ça doit se faire sous certaines conditions assez strictes et c'est ce que je vais vérifier encore maintenant aujourd'hui aussi.
C'est-à-dire que vous contrôlez comment le bois est transformé par les gens qui l'ont acheté?
Disons, on contrôle l'exploitation en forêt. Donc c'est assez strict, hein. Ils ne font pas ce qu'ils veulent non plus. Hein.
Et généralement, ils font quoi avec ce bois-là?
Ben, ça dépend des dimensions. Ça peut être de petits bois, ça peut être pour du bois feuillu, ça peut être du bois de chauffage. Pour le bois des résineux, là, ça peut être... on fait commence à faire pas mal de mobilier avec le mélèze par exemple.
C'est revendu en Belgique ou plutôt d'autres c'est exporté à l'étranger?
Ben, les petits marchés, les petits bois, les petites dimensions, ça reste en Belgique souvent ou en Europe. Par contre, les gros bois là, vont en Chine principalement. Hein. Donc les marchands locaux ont de plus en plus de mal. Et le monopole est aux mains des Chinois, donc au niveau des prix, etc., c'est difficile, de plus en plus difficile pour les marchands belges et européens de tenir le coup. Les arbres qui sont cernés de bleu, ce sont les arbres objectifs. Une fois que de l'espace libre va être créé autour de lui, eh ben il va pouvoir croître d'autant plus et vraiment marquer son caractère dominant par rapport aux autres.
Et alors comment est-ce que vous déterminez les arbres objectifs? Ben, j'imagine qu'il y a plusieurs critères, mais
oui,
rapidement...
Tout simplement la hauteur, la grosseur, donc la vigueur de l'arbre en fait, et l'absence de défaut. Côté de H, porte un seau. Et avec ce seau, on frappe donc le tronc et on applique une marque, le seau royal, qui désigne l'arbre donc à la délivrance. Par expérience, on peut constater que si on n'intervient pas, eh bien, on va parfois laisser des arbres dominants qui ont de gros défauts et qui vont dominer des arbres comme celui qu'on vient de voir ici. Et voilà, sans notre intervention, il n'aurait pas eu la chance qu'il a. C'est ce qu'on appelle les loups. Les loups, ce sont des arbres très vigoureux, mais parce qu'ils ont beaucoup de défauts. Ils ont beaucoup de branches qui partent dans tous les sens et qui écrasent les autres. Et donc, ce sont ces premiers arbres-là qu'il faut éliminer. Mais si on ne le fait pas, si c'est pas des forestiers pour le faire, eh bien, on arrive à des peuplements qui sont malvenus, qui sont pleins de défauts et où il n'y a pas d'avenir. Donc, ces arbres vont écraser les autres, mais après, ils ne vont pas grandir suffisamment, se développer, ou ça va devenir ce ne sera plus une forêt, alors ce sera un ensemble d'arbres difformes et.
Non.
Si la forêt de soigne retient tant l'attention et a retenu tant l'attention jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a eu aussi les forestiers qui l'ont mis en valeur. Hein. Ça ne s'est pas fait tout seul. Bien sûr, naturellement, il y a des arbres qui poussent remarquablement. Et en forêt de Saône, c'est le cas bien souvent. Mais c'est aussi avec l'aide de l'homme. Et même anciennement, on intervenait encore bien plus. On pratiquait l'élagage à grande hauteur, même pour les arbres en forêt, pas seulement le long des drais parfois. Donc, on en vient maintenant à une sylviculture beaucoup plus proche de la nature qu'avant, mais on garde quand même une certaine maîtrise.